normalement, bonne réflexion. Normalement, dans un séminaire, on n'est pas très bien. Mais ici, je crois que c'est bien que le plus possible profite. Je ne dirais pas que le droit de l'actif est actif, parce que je crois que le plus actif, d'une certaine manière, ça fait partie du séminaire. Un séminaire, c'est que un expose. Des examinateurs par rapport à celui-ci. Non, on coopère en vue d'une recherche de la vérité. Et on va aller plus loin, poser des questions. Normalement, vous êtes plus actif dans un séminaire que dans le cours. Un cours, on vous demande de ne pas poser trop de questions pendant le cours, parce qu'il y en a d'autres. Alors, moins vite. Ici, vous laissez l'exposé. L'exposé ne doit pas être trop long. Comme il a fait déjà beaucoup de cours, et ben c'est un peu long. mais l'exposé ne doit pas être trop long pour laisser le temps ensuite à chacun de poser des questions. Alors, cette année-ci, on a pris comme sujet un sujet complémentaire au sujet qu'on voit au cours. On voit l'éthique, on n'a pas le temps de voir la politique. Et c'est pourtant important de voir la politique. Alors comprenons bien. La politique au point de vue philosophique, ce n'est pas du tout les partis politiques. On va défendre le parti politique, le parti, je pense que le socialisme soit maintenant. Alors on va montrer la grandeur du socialisme et on ne va pas faire ça du tout. La politique au point de vue philosophique, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est qu'une philosophie communautaire. C'est la philosophie communautaire. C'est la philosophie, on dirait, dans un certain sens, de l'engagement. On est engagé dans une communauté. Du fait même qu'on est engagé dans une communauté, il y a des exigences de l'engagement réciproques. Il y a un contrat réciproque. Dans toute communauté, il y a un contrat réciproque. Et dans tout engagement, il y a un contrat réciproque. Alors, il s'agit de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être engagé dans une communauté. Qu'est-ce que ça représente au point de vue activité humaine. Voir, et c'est ce qu'on va essayer de faire, parce qu'au fond, en définitive, si nous prenons ces différents auteurs, qui ont des perspectives différentes, comme on verra progressivement, on verra qu'ils ont des conceptions très différentes de l'homme, et de l'homme, partie et tout. Parce que c'est l'homme, partie et tout, ça c'est que, en tant que je suis engagé dans une communauté, je suis une partie. Et la communauté, d'une certaine manière, est le tout. C'est le bien commun. Alors, il faudra essayer de comprendre quelques notions essentielles de ce que représente une philosophie communautaire. Et dans la communauté, il y a la famille, il y a la communauté, ce que les anciens appelaient la communauté parfaite, qui était la communauté politique. Aujourd'hui, il y a un petit bémol. Alors on essaiera de comprendre pourquoi il y a ce bémol et comment le comprendre. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Très bien, de plus en plus, on est au niveau international. Ah ouais. C'est l'international qui nous commande. Hein. Essayez de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce changement d'optique. Comment c'est mieux et comment on ne peut pas aller en arrière. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Est-ce qu'il y a encore une philosophie politique? Ou est-ce qu'il n'y a qu'une philosophie internationale? Et qu'est-ce que ça veut dire, une philosophie internationale? Qu'est-ce que ça engage? Oui. Ces problèmes-là qui sont toujours par rapport à l'homme, n'oublions pas, hein, le philosophe regarde l'homme. Il ne regarde pas en premier lieu le tout politique. Si ma philosophie était premièrement une philosophie du tout, comme certains disent, si ma philosophie était premièrement une philosophie du tout, et ma métaphysique une philosophie du tout, alors à ce moment-là, la politique deviendrait première. Et je regarderais l'individu en fonction de la politique. Ah, permanent, on toucherait peut-être certains aspects de certaines politiques dites internationales, dites du socialisme, parce que eux regardent en premier lieu tout, et leur philosophie est avant tout une philosophie politique, et l'homme est regardé en fonction de la politique, ce qui est un manque de réalisme, parce que avant le socialisme, il y a eu l'homme. Donc, si nous avons une philosophie réaliste, on regarde l'homme en premier lieu et on regarde l'éthique en premier lieu, l'éthique personnelle. On essaie de comprendre les liens avec l'éthique politique, l'éthique communautaire, l'éthique familiale, qui vient en second lieu. Et c'est, je crois, cela qui va être intéressant à essayer de comprendre dans les différentes perspectives. Alors, on a pris différentes perspectives, je dirais progressivement. Pas parce que ça nous a semblé un point chaud. Tous les points chauds. Platon, c'est un point chaud. Aristote, n'en parle pas. L'Estoïcien, oui. Parce que c'est l'éclatement, l'Estoïcien. C'est l'éclatement de la Grèce à l'international. Première apparition de l'international, c'est l'Estoïcien. Citoyen du monde. Un Stoïcien, véritable citoyen, citoyen du monde. Mais plus citoyen de Grèce. Tandis que pour Platon et Aristote, on est grec. Les autres sont des barbares. C'est bien net. Alors on voit très bien la différence. C'est tout à fait autre chose comme perspective. Vous voyez l'éclatement d'une philosophie politique qui se fait avec le stoïcisme. Et pour ça, le stoïcisme sera particulièrement intéressant. Saint Thomas, théologien, c'est différent. Alors ça, c'est comme ici. C'est des livres. Et au fond, dans quelle mesure le christianisme n'a-t-il pas mûri l'homme d'une manière telle qu'on ne peut pas retourner sur la Grèce. Et les stoïciens préparaient peut-être à être citoyens du monde. Quand on est chrétien, on est citoyen du monde. Et c'est vrai, on est citoyen du monde, parce qu'on est citoyen du ciel. Et on est tous appelés à ce royaume éternel. Et puis alors, après saint Thomas, on verra Descartes. On verra ces différents aspects. Il serait intéressant à voir comment, de fait, le point de vue chrétien a mûri l'homme d'une manière telle que la plupart du temps, l'homme ne tient plus debout. Il tient debout en tant que chrétien, mais il ne tient plus debout tout seul. Et là, il y a une espèce de décrépitude qui se fait. Et c'est vrai. L'empire chrétien, la culture chrétienne, on assiste aujourd'hui à une espèce de corruption de cette culture chrétienne, cette corruption de la politique chrétienne avec les oppositions violentes. On doit se poser la question, alors comment ça se fait? Si on voit ça comme fruit de l'Église, c'est pas très bon. C'est quelque chose de nécessaire. Progressivement, parce que le christianisme mûrit tellement l'homme que l'homme a beaucoup de peine d'être chrétien. Il a beaucoup de peine d'être homme et chrétien. C'est un certain fidélisme qui s'introduit. Alors ça, il faudra le voir. Non, je ne vous pas maintenant. Alors, aujourd'hui, c'est Platon. Alors, je vous laisse Platon. Vous voyez bien le procédé, hein, la manière dont on doit opérer. On les compte attentivement. Normalement, c'est annoncé d'avance. On annonce toujours d'avance les séminaires. Les dates sont les devoirs probables. Parce que ça, c'est de faux. Et ça, c'est. Autrement, elles seraient très, très déterminées. Parce qu'on a besoin du centre de l'organisation. Et donc, ce serait très, très déterminé. Mais comme je ne suis pas toujours là, ça fait que de temps en temps, il y a des petits changements. Bon, alors, je vous laisse tout de suite. Non, moi, et c'est le frère, Benoît qui est responsable. Je suis là, on est ensemble.
Je vais essayer d'être court.
Mais... Non, c'est pas trop court. D'être modéré.
Voilà, on va essayer. Alors, j'ai voulu voir, en fait, le problème de la politique, mais davantage pour expliciter le lien qu'il y a chez Platon entre la contemplation et l'action, la théoria et la praxis. Alors je voudrais commencer en premier lieu par situer le climat des grandes influences qui ont influencé Platon. Ça peut aider, surtout pour, si on connaît moins bien. Alors, Platon subit l'influence du pythagorisme. C'est une religion traditionnelle qui implique deux aspects très importants, qui sont l'aspect à la fois de la purification et du salut de l'homme, et puis l'aspect des mathématiques. Tu parles de maths. Puisque pour les pythagoriciens, c'est les nombres qui sont les principes des êtres, des réalités, les nombres qui existent comme des nombres, et l'un est le principe. Ensuite, il y a l'influence d'Héraclite, qui a certainement beaucoup agi sur Platon. Et Héraclite disait, en gros, il faut revenir au logos, et le devenir est ce qui coule toujours, pantarei. Donc, les choses passent, il est impossible de les... c'est surtout Platon qui dira ça après lui, mais c'est déjà présent chez Héraclite. Il y a l'inintelligibilité du devenir, et il faut dépasser les contraires. Donc, on va noter l'influence sur Platon et au point de vue du le devenir, c'est ce qui s'écoule. Ensuite, il y a l'influence de Parménide qui oppose l'être qui est éternel et le devenir qui en fait. Pas du non-être, mais qui est plus proche du non-être. Donc l'être, c'est l'éternel. C'est ce qui est. Ensuite, il y a l'influence de Socrate, qui a été le maître de Platon. Et alors Socrate, c'est un homme qui a lu les physiciens, donc qui a essayé de connaître d'abord la nature, et qui, dans la lecture des physiciens, n'a pas trouvé la nourriture. Ses interrogations, la réponse à ses interrogations, et qui alors s'est replié sur un point de vue éthique et un point de vue de connaissance de l'âme avec le connais-toi toi-même. Et alors, Socrate, c'est l'homme religieux qui cherche à connaître l'âme et les vertus. Il regarde bien, il cherche la définition. Mais en fait, il ne regarde plus vraiment le cosmos. Il n'y a plus cette attitude d'expérience au niveau de la nature. Ensuite, il y a tout le climat familial de Platon. C'est donc la famille de Platon, avec deux oncles qui sont des hommes politiques qui appartiennent aux 30 tyrans. Alors là, je vous renvoie à la lettre 7 de Platon, dans laquelle Platon parle un peu de lui-même et puis de son cheminement, de son itinéraire, de la manière dont il a évolué à l'école de Socrate et puis comment il s'est situé face à la tyrannie des 30 et face aux injustices qui étaient commises. Ensuite, donc, et comprendre que à cette époque des 30 tyrans, c'est aussi l'époque des sophistes, donc des hommes qui font passer la recherche du pouvoir et de la gloire humaine avant le point de vue de la vérité. Et donc là, voilà. Et Socrate est déjà une réaction, j'aurais dû mettre les sophistes avant Socrate, Socrate est en réaction contre les sophistes, parce que les sophistes ne regardent plus le point de vue de la vérité. Et donc Socrate recherche une science, et recherche, je crois, enfin recherche la vérité. Alors, de là, il va falloir comprendre que chez Platon, il y aura, comme toujours, deux tendances, ce que le père Festugière a relevé. J'ai amené des livres, c'est parce qu'il y a de temps en temps il y a des petites citations qu'on pourra lire, mais c'est surtout pour vous les montrer. Donc c'est Contemplation et vie contemplative, les contemplatives selon Platon du père Festugière. Alors il dit bien, il y a deux tendances, une tendance qui va être à l'école de Socrate, j'allais dire une tendance religieuse et contemplative. Et une deuxième tendance qui va être, j'allais dire, un peu l'atavisme familial, et puis certainement son côté à lui, son originalité, c'est le point de vue de la politique. Et Platon dit très explicitement qu'il aurait voulu, enfin qu'il voulait gouverner, et ensuite tout au long de sa vie, on va voir Platon essayer d'aller auprès de Dion pour gouverner, pour... Et on voit bien que ces expériences de gouvernement, c'est en premier lieu pour Platon, essayer de voir si mon système, ça marche. Il y a un moment qui est très net dans la lettre 7, où il dit qu'il veut essayer qu'il était heureux d'aller faire cette expérience politique pour voir si son système politique allait fonctionner. Alors, à partir de là, de ces diverses influences, il faut comprendre ce que va être la grande intuition de Platon. Donc, l'intuition de Platon, c'est en fait parce que le devenir est inintelligible, parce qu'il y a cette opposition de l'éternel et de ce qui passe, de ce qui change continuellement, il va y avoir la nécessité pour Platon de découvrir une science. Et découvrir une science qui donc soit durable. Parce que si j'ai une science qui change tout le temps, à ce moment-là, ce que je pense. Maintenant n'est plus valable dans 5 minutes parce que les choses ont changé. Alors Platon va vouloir découvrir une science et sa grande intuition, ça va être de dire, en fait, il existe un monde éternel qui est l'objet de mon intelligence, comme il existe un monde sensible qui est l'objet de mes sensations. Alors il va y avoir tout de suite, dans l'intuition de Platon, une scission, une coupure, d'une part entre l'objet sensible qui regarde mes sens et l'objet intelligible qui regarde le nous. Ça veut dire que toute la philosophie de Platon va partir d'une intuition. Et c'est très important parce que on comprend que il n'y aura plus dans la philosophie de Platon de partie de la philosophie, comme on pourra les retrouver, comme on les trouvera chez Aristote. Chez Aristote, il y a le lien à l'expérience qui fait que chaque expérience est à l'origine d'une partie de la philosophie. Chez Platon, il y a une intuition unique et originale qui est le système qui va permettre le discours sur toutes les choses. Mais c'est l'intuition, elle est unique. Donc on va avoir une science qui va être une science, la science des intelligibles. Alors pour essayer de saisir un tout petit peu ce que sont les intelligibles, c'est la saisie de ce qu'il y a d'un dans une multiplicité de choses déterminées. Donc, Platon recherche l'essence des choses, donc la causalité formelle, et comment, en voyant les choses qui sont diverses et qui pourtant ont quelque chose d'un en elles. Par exemple, il y a des divers beaux, des choses belles, alors on va chercher ce par quoi le beau est beau. Et alors ça va être l'originalité de Platon, c'est que cette intelligibilité, il va en faire une substance éternelle. Donc, alors, c'est ce qu'on va appeler les idées, ou les formes en soi, ou les formes idéales. Alors, ces formes idéales, Platon en pose pour toutes les réalités. Mais, et alors, ces formes idéales constituent un monde intelligible, parfaitement ordonné, avec à son sommet un principe. Alors ce principe, Platon l'atteint de diverses manières. Alors, dans le banquet, il l'appelle le beau, parce que c'est par la beauté qu'il essaye de s'élever jusqu'au beau en soi. Alors, il l'appelle le beau, ça c'est dans le banquet. Dans la République, il va l'appeler le bien en soi. Et dans le Philèbe et le Parménide, il va l'appeler l'un. En fait, c'est très net chez Platon qu'il y a identité entre le bien et le beau. C'est moins évident pour le point de vue de l'art. Mais alors, disons qu'on peut, on peut quand même, par rapport au Philède et à la République, voir le lien. Alors là, je renvoie aussi à la topique 1. Alors, c'est très important de voir maintenant le mythe de la caverne qui représente un peu, j'allais dire, l'itinéraire philosophique platonicien type. Donc Platon communique ce que lui a vécu, enfin la manière dont il a compris la philosophie, à travers le mythe de la caverne, d'une manière très simple et très imagée. Ça correspond, donc, pour ce mythe de la caverne, décrit, je crois que, en fait, vous êtes censé le connaître, il décrit l'ascension du philosophe vers le sommet de l'intelligible, qui est le bien, et qui implique la purification du corps, etc., et des réalités sensibles. Et cette contemplation du bien, c'est en même temps, alors c'est là qu'on rejoint le problème politique, c'est immédiatement plutôt identifié au point de vue du juste. Donc le bien en soi de Platon correspond tout de suite, et quand vous prenez le mythe de la caverne, c'est tout de suite après le mythe de la caverne, il fait l'identification, il parle de celui qui a contemplé la justice en soi. Alors il faut comprendre que le bien, c'est l'un, d'une certaine manière, et c'est le juste. Alors ce qui est très délicat, c'est le problème de la saisie que ça représente, parce que nous, on n'a pas l'intuition de Platon. Et donc, pour savoir exactement ce que représente l'intelligibilité de l'un, d'une part, par certains aspects, on a l'impression qu'il y a une inconnaissance absolue parce qu'il est trop lumineux. Donc, on a l'impression que l'intelligence est dans une complète obscurité. D'un autre côté, il dit qu'il saisit l'essence de l'un, du bien. Donc, la difficulté, c'est de préciser exactement quelle est cette saisie. Et alors, à partir du moment où Platon a saisi le juste, ça lui donne la possibilité de reproduire en lui-même et dans la cité quelque chose de juste. Donc il va copier l'idéal éternel. Alors il n'y a plus du tout, comme chez Aristote, une science pratique et une science théorétique. C'est la contemplation qui devient science pratique. On pourrait presque dire c'est appliquer les conclusions de la théologie. Il y a une application directe de la science au point de vue pratique. Donc, il y a la contemplation du bien. Alors, le juste, ça va juste... Le point de vue de la justice dans la cité et dans l'âme, ça va consister à reproduire dans la cité et à reproduire dans l'âme le bien en soi qui a été contemplé. Alors, c'est une imitation. Donc, le point de vue de la praxis chez Platon, ça va être l'imitation du modèle. Alors je voudrais simplement maintenant, je vais terminer en voyant l'importance de cela. Parce que si le bien et le juste est l'un, on va comprendre que l'importance, ce qui est primordial pour la cité, c'est en premier lieu l'unité. Et ce qui est primordial pour l'homme, c'est en premier lieu l'unité. Alors tout le système platonicien, ça va être d'imprimer dans la cité cette unité. Et de réaliser dans la cité et en soi-même cette unité. Alors Platon, alors c'est là qu'on va pouvoir se demander s'il n'y a pas ce qu'on a appelé l'utopie chez Platon, c'est que comment il va pouvoir réaliser cette unité. Alors il dit en fait, le problème, ce qui empêche l'unité, c'est qu'il y a des familles diverses. Alors à partir du fait qu'il y a des familles diverses, il va falloir ramener toutes les familles à l'unité. Alors la grande théorie de Platon, c'est donc que tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants sont à tout le monde. Il n'y a plus de distinction et de division. On veut une unité. Ensuite, l'unité, ça va consister aussi à ce que chacun soit à sa place et fasse sa mission. Alors, papa cordonnier va engendrer un fils cordonnier qui engendrera un autre fils cordonnier Il ne faudra plus sortir parce que l'État est parfaitement organisé en vue de l'un. Et si l'État est parfaitement organisé en vue de l'un, il faut que tout le monde coopère dans le sens qu'on lui demande et ne sorte surtout pas du rang. Donc il va y avoir toute une organisation de la cité en vue de l'unité de la cité. Et alors, il y a aussi un autre problème qui est très, très important à noter, c'est que nous, dans une perspective aristotélicienne, on va distinguer la philosophie de la communauté et la philosophie éthique. Donc, la philosophie de la communauté, elle part de l'expérience de la vie commune, et la philosophie éthique part de l'expérience de l'amour d'amitié. Eh bien, chez Platon, en fait, il y a une seule philosophie, c'est la philosophie politique. Mais l'éthique, c'est d'imiter ce qui est vrai au niveau de la politique. Alors ça va nous donner pour les quatre vertus, et je terminerai là. Il y a les quatre grandes vertus pour Platon, c'est, je crois, la vertu principale de la justice. Alors, la justice, qui est capable de conduire à la justice, c'est celui qui l'a contemplée. Donc, c'est le philosophe roi. Le philosophe roi, c'est celui qui va conduire la cité à la justice. Donc, alors ça, ce sera la classe du gardien, c'est la classe du roi. Ensuite, il y a la vertu de courage. La sagesse avant. Alors, on a la vertu de courage. Ça va être le soldat. La vertu de tempérance. L'artisan. Donc il y aurait ces. J'ai l'impression que je fais une petite erreur. Donc ce serait le cordonnier regarde la prospérité, la vertu des artisans regarde la prospérité de la cité. Les gardiens regardent la sécurité de la cité. Et le chef regarde le gouvernement de la cité. Est-ce que je continue? Alors, je vais vous lire simplement donc le passage là sur chacun donne ses soins. La justice, c'est que chacun soit à sa place et accomplisse son ouvrage. Alors je vous renvoie à la République 423D. Voilà. Encore plus petite et pauvre qu'elle, répartis-je, est au moins celle-ci dont précédemment nous avons fait mention. Quand nous disions la nécessité, dans le cas où des gardiens sortiraient un rejeton ne valant rien, de l'expédier dans les directions des classes inférieures. Et c'est assez immédiat, expéditif. Et dans le cas où de celles-ci, il en sortirait un qui eût de la valeur, de l'expédier dans la direction des gardiens. Or cela tendait à faire voir que tous les citoyens doivent, un chacun, être appliqués à une tâche pareillement une, celle à laquelle la nature de chacun le prédestine. Donc on est prédestiné par nature à accomplir telle ou telle tâche. C'est-à-dire par atavisme et par... De manière que chacun s'acquittant d'une tâche unique, celle qui est la sienne, ne risque pas de devenir plusieurs hommes, mais n'en soit qu'un. Et que, de la sorte, l'État dans son ensemble se développe comme un être unique, non comme plusieurs. Alors le problème, c'est de savoir... Dans quelle mesure il y a chez Platon? Parce que Robin dit pour lui, ça a l'air d'être très net que c'est assez réaliste, la pensée de Platon. J'ai pas absolument creusé, mais ça. C'est... Parce que. Les...
À la vérité, l'éclat de la pensée philosophique est chez Platon si intense et d'un tel rayonnement qu'on s'est laissé aveugler sur ce qu'on lui doit attacher à d'autres égards. Son génie philosophique est dominateur. Il est impossible qu'un tel esprit s'applique à quoi que ce soit sans y imprimer profondément le sceau de sa méthode et de ses principes. Alors je crois que c'est précisément ça qu'il faut voir, c'est que dans l'activité pratique, Platon imprime le sceau de ses principes qui sont au niveau de sa contemplation. L'unité. C'est beaucoup plus l'unité que le bien commun, finalement. Le bien, enfin, je crois. Hein. Je crois que le bien commun, c'est l'ordre. Beaucoup plus que... Enfin, je sais pas si... Mais je crois que c'est beaucoup plus l'ordre que le bien qui se répercuterait sur chacun. Il y a un monde éternel et le bien, c'est finalement de lui correspondre. Et moi, je sais pas, ça m'a fait penser vraiment à Plotin. Quand Plotin dit « Le bien, c'est l'un ». Non, on dirait pas ça. Enfin, je veux dire, il y a le bien est comme absorbé par l'unité. Ben, je crois qu'au niveau de Platon, il y a déjà ça en germe. C'est que le bien commun de la cité, ça devient l'unité, et l'unité devient première. Et alors, tout est sacrifié à l'unité d'une certaine manière. Ouais, ça répond. Parce que on voit pas le bien commun d'une manière. Enfin, c'est pas explicité de cette manière-là. Si, la coopération, c'est que chacun soit dans son sillage. C'est ça.
Chacun a sa place.
Voilà, c'est ça.
Alors, ce qu'il n'y a pas, c'est que c'est paradoxalement une espèce de formalisme.
Oui, vous avez dit, c'est plus un individualisme poussé à l'extrême, parce qu'il n'y a pas de famille.
Oui, c'est ça.
La famille n'existe pas. Je crois que c'est très important de voir le point de vue. Le point de vue politique ne repose pas sur la famille. Le point de vue politique repose sur l'individu. C'est chaque individu comme tel. Alors, évidemment, sur l'homme. Regardez la conception que Platon a de la femme. La femme est uniquement là pour permettre les enfants. Et au sens strict, il n'y a pas d'amitié entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'amitié. Il y a uniquement pour la progéniture, pour avoir les enfants. Et on enfante les enfants pour l'État.
C'est assez effrayant
pour que l'unité soit plus parfaite, comme dit Platon. Parce qu'alors un homme à 45 ans peut considérer que tous les enfants de tel âge peuvent être ses enfants, il ne sait pas.
C'est ça.
Et donc il les aime comme ses enfants. Il doit les aimer donc beaucoup mieux. et là, ça montre très bien que l'unité comme telle, c'est une unité abstraite. C'est l'idée. Parce que dire que il y aura beaucoup plus d'unité dans la cité s'il n'y a pas de famille. Et donc on va considérer que tous les enfants de tel âge peuvent être mes enfants, parce que je ne sais pas, ils sont perdus dans la nature. D'accord ? Je les aimerais beaucoup plus. Alors, on ne voit pas que l'amour porte sur l'individu comme tel, avec le lien de l'individu. Les gens regardent beaucoup plus. Il pourrait être mon enfant, s'il puisse être mon enfant, je l'aime. Je l'aime pour les enfants. Communauté de femmes, communauté d'enfants, communauté de biens. Donc on est en face d'un communisme le plus absolu qui soit, en vue de l'unité, et à cause de l'unité. Ça, vous avez très bien vu, et c'est ce qu'Aristote du reste reprochera violemment à Platon, c'est que l'unité est vue comme l'absolu. Ne regarde pas tous les hommes. C'est ça que je veux montrer. Seul le citoyen.
Même le citoyen gardien, le citoyen
sage,
le
philosophe, le roi,
ça concerne
un militaire. C'est au fond le citoyen, mais je crois que c'est la conception du citoyen. Et la conception du citoyen qu'on retrouvera dans tous les aspects de toutes les politiques. Qu'est-ce que c'est que le citoyen pour Platon ? Et on pourrait reprendre des problèmes comme ça. Quel est le citoyen pour Platon, à la différence de l'homme ? il y a une différence énorme entre l'homme et le citoyen. Alors, même la conception de l'homme chez Platon, parce que qu'est-ce que c'est que l'homme pour Platon ? En réalité, l'homme pour Platon, c'est l'âme. Et c'est l'âme contemplative. Vous voyez ? Puisque le corps est accidentel. Si le corps est accidentel, l'homme, c'est pas l'union de l'âme et du corps, c'est pas donc l'individu, c'est l'âme liée à son point de vue de contemplation. L'homme n'est parfaitement homme que s'il est contemplatif. Et alors, c'est là le point de vue, la dualité qui demeure toujours dans Platon, c'est que de fait, il cherche quand même ce que c'est que la cité, et en réalité, ne voyant plus que la contemplation, la cité n'existe plus. Puisque font le point de vue de la caverne, hein. Vous êtes dans la caverne, nous sommes tous dans la caverne, mais on n'a qu'un seul désir, c'est de la quitter, pour trouver le sommeil, pour trouver la vérité. Et alors ça, c'est la contemplation. Et cependant, il est nécessaire, on constate bien, c'est un état de fait, alors vous voyez, il y a une espèce de positivisme du fait, qui est très très fort, et en même temps, il y a un idéalisme parfait de la contemplation. Et il y a toujours les deux, je sais pas. Alors, ce qui est, si on étudie l'évolution de Platon, parce que ça c'est un très gros problème, si on étudie l'évolution de Platon, on voit que le premier Platon est beaucoup plus pour la dualité de l'âme et du corps que le dernier Platon. Autrement dit, il y a un effort constant chez Platon d'intégrer la sensibilité, la sensation et le corps, et donc l'aspect politique. Parce que c'est à cause du corps que je suis un animal politique. C'est pas à cause de l'âme. À cause de l'âme, je suis un contemplatif, et donc je n'ai qu'un seul désir, c'est de sortir de la caverne.
On retrouve individu, personne.
Oui. On retrouve individu, personne, tout à fait. Et l'âme, alors je dirais personne, je dirais l'âme spirituelle.
Voilà, l'âme spirituelle.
L'âme spirituelle est faite pour la contemplation. L'individu, c'est le corps. Et il est que momentanément dans la cité. Accidentellement. Et c'est ce qui explique comment, pour la cité, au sens strict, nous avons. Vous en connaissez ? C'est pas suffisamment. Vous voyez, si regardez le point de vue de la cité comme tel, le point de vue de la cité va être quelque chose de momentané.
Ça regarde pas directement le bien, mais le bien commun est en fait le bien de chacun qui devient le bien de tous pour devenir le bien pour chacun.
Je crois que ce qu'il veut montrer, c'est y a-t-il du côté de l'un une univocité absolue ou est-ce que vous trouvez une certaine analogie ? Je crois que c'est votre question. Autrement dit, Platon identifie le bien et l'un en soi au niveau de la contemplation. Que je voulais vous poser aussi. Il identifie l'un et le bien au niveau de la contemplation. Puisque je ne peux pas atteindre le bien sans atteindre l'un. Parmi le banquet. Philèbe, banquet, parmi c'est le problème de l'un. Le banquet, c'est le problème du bon. Et Philèbe, c'est le problème du bien. Et le bien, on le retrouve aussi dans la République. On l'a trouvé avant la République. Génétiquement dans la pensée de Platon, il a commencé par le bien. Je ne crois pas qu'il a commencé par l'un. Il a terminé par l'un. C'est d'abord le bien qui le voit. Alors, ce que nous trouvons au niveau. Donc, ici nous sommes au niveau de la République, hein, puisque bon, c'est dans la République qu'on trouve le mieux sa pensée politique. Et on sait que ce n'est pas sa pensée dernière, puisqu'après il y a les lois. Donc, il y a la politique, la République qui est Platon encore très euphorique, qui aspire encore d'être roi. Cette aspiration constante chez Platon d'être roi. Ses ancêtres ont été tueurs, et il est de sang royal, et donc il faut quand même qu'il trouve une finalité. Et il aspire à être roi, c'est sûr. Et sa philosophie, vous voyez, c'est là où on voit très bien la fidélité à Socrate n'est pas totale. Au fond, c'est ce que nous reprochera le sens. Parce qu'il a été fidèle à Socrate momentanément. Et quand Socrate est mort, l'athalisme impérial est venu plus fort. Donc il a aspiré à devenir roi. Tant que Socrate était là, évidemment, il regardait le point de vue uniquement de la connaissance de l'âme. Et la connaissance de l'âme, c'est la connaissance du point de vue moral, des vertus. Mais avec la mort de Socrate, il a aspiré très vite. Puis surtout le chef de Socrate, il a aspiré très vite à devenir roi pour venger Socrate aussi. Peut-être ça un peu, vous avez une bonne conscience. Donc il s'agit de redonner à la politique une politique qui soit intelligente, une politique qui soit vraie. Or, si Platon avait été roi, la politique aurait été intelligente. Platon en est convaincu, ça c'est sûr. Il aurait été très intelligent, il n'aurait jamais été aussi intelligent. Donc il y a cet idéal qui poursuit d'être roi. Après la République, comme ça a raté, on voit un autre point de vue, et ce point de vue, je crois, de plus en plus concret. Là, on peut se demander de l'influence d'Aristote sur Platon. N'est-ce pas ? Il y a un étudiant à Fribourg qui fait une thèse là-dessus. Je vais lancer là-dessus, c'est très, très audacieux. On a toujours fait de l'influence de Platon sur Aristote, mais on n'a jamais fait de l'influence d'Aristote sur Platon. Alors que je crois que c'est beaucoup plus important. Parce que les Grecs avaient très fort le sens des disciples qui influençaient le maître. C'est après, c'est avec la théologie, on n'a plus eu du tout ce sens-là. Le sens philosophique, le sens grec, les jeunes apportent un sens nouveau. Et donc apportent quelque chose qui permet au maître de se développer aussi. Surtout avec l'attitude de Platon, l'attitude de l'amour de Platon pour ses disciples. Alors on voit très bien ça, de l'influence du disciple sur le maître. L'influence d'Aristote, qui était le liseur, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'était sûrement parmi les disciples de Platon le plus intelligent, celui que Platon considérait comme le plus intelligent. Mais à cause du népotisme plus puissant, Aristote a été écarté. Ce qui montre bien que c'est contraire à la théorie de Platon. Si Platon avait été jusqu'au bout fidèle à ses principes, c'est Aristote qui devait succéder à l'Académie. Et tout aurait été changé. La face de la Terre aurait changé, parce que n'aurait pas été le même du tout. Mais il a été. Le népotisme était plus puissant. Le népotisme, c'est l'individu. C'est pas l'âme séparée. C'est tout à fait. Et donc là, ça a repris les droits. Alors ce qui est très curieux, c'est de voir dans les lois, vous n'avez pas regardé les lois. Dans les lois, on retrouve un Platon qui met beaucoup de bémols. Hein. Très différent. Alors je crois que. C'est très bien quand on veut, et c'est le rôle ici, vous avez eu raison, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre une théorie politique qui a été émise dans la République, et qui est magistrale, qui est terrible, mais qui est magistrale. Alors nous revenons à ce problème. Dans le banquet, dans la République, c'est le bien. Et l'un apparaît surtout au niveau politique. Mais pas au niveau de la contemplation. Puis, progressivement, avec Parménide, c'est l'un qui prend la place du bien. Alors, c'est là où je vous pose la question, parce que après Parménide, justement, on a un Platon qui se critique lui-même, qui fait une espèce d'autocritique. Alors, la théorie de l'un qu'on retrouve dans la politique est-elle encore l'un aussi fort que l'un parmi nous, ou au contraire un nain qui est beaucoup plus un rapport, une harmonie, un ordre.
Mais c'est ça, parce que l'un parmi nous, c'est un être.
L'un parmi nous, c'est l'un en soi, c'est l'un. Identique au bien.
Mais même quand on voit.
Identique au bien. Oui, mais Platon ça. Ne dit pas, du reste. Hein. Oui. Ce sera Platon qui le dira.
Voilà, c'est ça.
Platon ne le dit pas.
Mais
vous voyez, c'est ça qui me semble très curieux dans la perspective de la genèse de la pensée de Platon, c'est que c'est d'abord le bien. L'un apparaît second, mais apparaît très important pour sa politique. Il semblerait, on pourrait dire, que c'est l'aspect politique qui a mis en lumière, en premier lieu pour Platon, l'importance du bien.
De l'un.
De l'un.
Est-ce que ce n'est pas par le biais de la justice, justement? Parce que c'est la conception
justice.
De...
Oui,
il y a un passage du bien à la justice et à l'un.
Oui,
finalement.
Sûrement. C'est sûrement la justice. Mais la justice donne plus le sens de l'harmonie que du bien.
Ah oui, c'est ça. La justice et l'harmonie.
La justice donne plus le sens de l'harmonie que de l'un.
De l'un.
Or, pour Platon, il semble bien que justice et un soient pris ensemble. Ensuite, il a compris que l'un était capital au point de vue philosophique et au point de vue contemplation. Et c'est l'un domine le bien dans le Parménide. Et c'est l'un qui explique la participation. Dans le Parménide, c'est l'un qui explique la participation. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de la pensée et au point de vue de l'organisation de sa pensée. Et puis ensuite, dans les lois, vous voyez, c'est plus la proportion que l'un. Donc, on retrouve un point de vue de la justice. C'est vrai que c'est pas trop mal à préciser.
C'est que la pensée de Platon, on ne peut jamais
Non, parce que
ça,
dans Platon
complexe,
même, il y a toujours un dualisme. Vous voyez, il a supprimé le dualisme matière et forme pour tomber dans un dualisme de la pensée.
Ah, c'est ça.
Tandis qu'Aristote accepte le dualisme matière et forme pour l'unité de la pensée. C'est très curieux, ça. C'est un fait.
Oui. S'il avait été contraint de considérer qu'au niveau pratique et politique, l'idée absolue est impossible.
Ah si, il le dit d'ailleurs. Mais il faut se rapprocher du modèle.
On
s'en rapproche, mais c'est impossible.
On ne peut jamais y arriver totalement.
Oui. Il y a toujours des classes.
Classes et des individus et des gens bien nés, des gens mal nés. Pourquoi les uns sont intelligents et les autres sont bêtes? C'est un fait, Platon, c'est heurté comme ça. Il y a des corps qui sont d'argent et des corps qui sont plombs. Tu vois, on voit très bien. Alors ça, c'est un fait, c'est un fait qui va contre son idée même de la contemplation. Alors il admet qu'elle est contemplative et qu'il
est... Oui, parce que c'est en fait, Paul parle pour vue de la réminiscence.
Oui.
Normalement, tout le monde devrait pouvoir contempler si on est tous...
Tous sont dans le dernier moment. Ils ne sont pas tous dans le dernier moment. Je ne sais pas si vous êtes dans le dernier moment.
Ah bon?
De la réminiscence, réincarnation. Vous devez encore peut-être vous réincarner encore une fois avant d'être en contemplatif. Hein. On ne sait pas où vous en êtes. Vous ne naissez pas avec un numéro, le dernier numéro, mettant moi je suis pour la contemplation. Si vous avez un corps de bronze ou trop matériel, eh bien vous vous réincarnerez encore dans un autre individu et ce sera progressif. Pas qu'une seule réincarnation, il peut y avoir des multiples. Il est sûr que la réincarnation aboutit à faire que l'âme soit purement contemplative et quitte le corps.
Est-ce qu'on on a précisé le point de vue de l'influence de l'Inde, des religions d'Inde sur Platon?
Non. On ne peut pas le préciser. On voit qu'il y a eu sûrement une influence, on ne peut pas le préciser.
Parce que, bon, finalement, on ramène toujours Platon, à une science au point de vue intellectuel, puisque nous, on voit. C'est-à-dire on distingue le point de vue de la connaissance affective et le point de vue de la connaissance intellectuelle. Or, dans le platonisme, c'est indistinguable. Il y a une espèce de connaissance intellectuelle qui est affective.
Je crois que chez Platon, ce qui est distinguable,
alors,
c'est la dialectique et le mythe.
Oui, c'est ça.
Vous retrouvez une dualité dans la pensée du mythe et du logos.
Ce serait la religion et puis la
tradition. Non, la religion est même au point de vue philosophique. Sans nécessaire. Je ne peux pas supprimer les mythes de Platon. Impossible. Et au fond, le dualisme qu'on retrouve en lui, le dualisme au point de vue de la pensée, c'est le mythe et c'est le point de vue de la dialectique. Et le point de vue de la contemplation, vous avez les trois. Vous avez le mythe pour tout ce qui n'est pas encore pris dans le point de vue rationnel. Vous avez la dialectique, qui est tout le logos et le cheminement du logos, où quand la dialectique est parfaite, elle est épistémée, elle est science. puis vous avez la contemplation. La contemplation est tout le temps. Vous avez trois moments. Trois moments de la
pensée. En même temps,
c'est là la très grosse différence entre Platon et Hegel. Vous voyez, c'est que la dialectique ne prendra jamais tout chez Platon. La dialectique sera dépassée par la contemplation. La dialectique s'appuiera aussi sur le point de vue limite. Et le point de vue limite implique le point de vue sensible, le point de vue affectif. Alors c'est pour ça qu'on pourrait appliquer ça au point de vue de sa conception, si vous voulez, au point de vue, sa conception au point de vue proprement de l'état, Qu'est-ce que ça correspond exactement? Au point de vue philosophique. Est-ce que nous pourrions dire chez Platon que le point de vue politique est tout entier tourné, dépassé par la contemplation? C'est pour avoir quelques affirmations nettes. Est-ce que je peux dire ça?
Parce que finalement...
Ah, sur le point des individus. Sur le point de vue de l'âme, de philosophe. Ceux qui sont capables, il y a la réincarnation successive. Et donc on peut dire que de ce côté-là, progressivement, je tends, même au niveau de l'espèce, vers la contemplation. Vous voyez? Parce que l'individu, pour lui, c'est très vrai, l'individu, mais c'est qu'au fond, tout tend vers la contemplation. Je crois qu'on peut quand même dire que pour lui, le point de vue politique comme tel, c'est un point de vue de fait. De facto, il y a une politique, c'est nécessaire, ça ne peut pas être autrement, mais ça ne nous donne pas une finalité absolue. Il y a un bonheur politique. Oui.
Pourquoi est-ce que le philosophe doit revenir dans la cabane? Pourquoi est-ce qu'il faut...
Parce que il vit avec les autres femmes. Mais lui reste contemplatif.
Il y a un problème aussi, c'est qu'il a été initié par quelqu'un. Et donc il a un dû à la cité. C'est la cité qui lui a permis d'être philosophe. Et donc c'est la cité qui lui a permis. C'est ce qu'il dit Platon, il me semble,
Oui, il dit ça. Il dit que j'ai été dans la cité, je dois retourner à la cité. Une espèce de charité fraternelle.
Non, puis il y a un moment où il explique, je ne saurais pas retrouver le lieu, où il dit finalement le philosophe a. Si vous avez été autodidacte, alors vous êtes libre par rapport à la cité. Mais en fait, dans la cité, on forme des...
Chez Platon, on est tous autodidactes.
Mais c'est pas aussi évident dans tous les textes. C'est pas aussi évident dans tous les textes.
Je sais. C'est la question de la réminiscence. C'est pas si évident. Il a un petit peu...
Il y a des choses où c'est...
Il y a des choses moins nettes.
Ah, oui.
Mais il y a quand même ce point de vue-là qui demeure.
C'est essentiel.
Ah oui. Et donc on est tous. Le Ménon montre bien que tout le monde, on a tous inné les connaissances mathématiques. On est tous mathématiciens. Mais on n'a pas quelqu'un qui nous a été là pour nous réveiller au point de vue mathématique. On est tous mathématiciens. Et si on ne l'est pas, si on prétend qu'on ne l'est pas, ben, il s'agit de se réveiller.
Oui, donc... même la réminiscence, c'est pas évident, parce que finalement, quand on voit, si on affirme immédiatement on est tous mathématiciens, et en même temps avec les réincarnations, il y a des incohérences chez Platon finalement.
Ah, il y a des incohérences. Ça, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas du tout, et c'est pour ça que certains l'ont dit, et je crois qu'ils ont raison, c'est que chaque dialogue représente
une
unité, et que c'est très très difficile de faire la synthèse de Platon. Il n'y a pas de synthèse. Il y a des points de vue différents, multiples, qui sur lesquels il insiste, on sent très bien, il est épris de la contemplation, ça, je crois que ça c'est vrai. C'est la théorie qui commande tout, et que c'est elle qui commande tout. Tout le monde n'est pas capable de ça. C'est sûr. Tout le monde n'est pas capable de ça. Mais ça reste quand même, par rapport à l'humanité, la finalité de l'humanité. Les hommes sont faits pour la contemplation. Ça, je crois. Ça, je crois que c'est vraiment ça qu'il considère. Les hommes sont faits pour la contemplation. Mais tous ne sont pas capables. Alors, on regardait qu'ils sont tous ces organes. Ils ne sont pas capables de faire quoi ? À cause de leur corps. Oui. À cause du lien de l'âme et du corps. Et donc, ils pourront par la réminiscence, progressivement, par la réincarnation, progressivement, aboutir à ça. Oui.
Est-ce qu'il y a le souci de la cité de Platon, d'éduquer les contemplatifs ?
Non. Il y a le souci de les éduquer au point de vue vertu, au point de vue. très loin dans un Vedanta, puisque le contemplatif a le droit de mentir. Il a le droit du mensonge. Parce que justement, il considère que ceux qui sont soumis à lui sont incapables de plus. Non, mais ça, c'est montrer que de fait, les contemplatifs, ben oui, il y en a quelques-uns. Mais ça reste quand même la finalité. Ça, je crois. Et l'unique finalité.
Mais est-ce qu'il n'y a pas pour le philosophe contemplatif une prétention par la politique?
Ah oui, tout à fait.
Alors ça, c'est une exigence de sa nature.
Une fécondité dans la politique, une fécondité, une manifestation, une surabondance qui donne.
Donc la politique donne plus que la contemplation.
Oui, oui, il y a une certaine, on pourrait dire d'une certaine manière, puisqu'il est obligé de retourner à la chose, alors qu'il y a la politique ajoute quelque chose que la contemplation ne donne pas. N'a pas idée.
C'est un peu comme dans le banquet où le philosophe est encore à nouveau, éduquer les autres.
Oui, c'est ça. Il y a une fécondité. Là qui permet d'ajouter quelque chose. Donc la païdéia vient s'ajouter. Je crois qu'on peut le dire. C'est là c'est très délicat, parce que, et d'autre part, la contemplation apparaît pendant tout. Il dit, vous voyez, il y a une espèce de contradiction constante, ça je crois, chez lui. Les rapports entre le corps et l'âme, les rapports entre la sensibilité et le moyen de l'intelligence, c'est constant qu'on ne peut pas trouver de théorie absolue.
Un certain bonheur
du citoyen. Et donc, du citoyen quand il est juste, par la justice.
En faisant une adéquation de sa contemplation, de la cité à sa contemplation, en reproduisant, il y aurait une certaine participation au bonheur du philosophe par chaque citoyen, dans la mesure où il fait partie de ce grand tout qui finalement a peut-être le philosophe.
Oui, c'est le philosophe qui communique aux autres. Seul capable. Parce que lui atteint le bien et l'âme. Il est au-dessus. Et pourtant, il doit retourner. Tant qu'il a son corps. C'est la nécessité du corps par où il est parti dans le monde. On peut donc affirmer premièrement la place de la théorie. Et on voit que c'est difficile. La théorie est sûrement la finalité de l'âme. À cause du corps, bémol, par rapport à ce que représente le point de vue de la cité. Deuxièmement, y a-t-il un bien commun au niveau de la cité? Il y a la justice. La justice qui s'inscrit dans chaque individu et qui donc donne un ordre. Donc il y a un bien commun immanent au niveau de la justice. Il n'y a pas de bien commun extrinsèque. Il y a un bien commun immanent au point de vue de la justice. Et là, vous rejoignez le point de vue de la participation. Vous voyez? Donc c'est immanent. Troisièmement, le fondement de la cité. Je crois qu'il faut que nous prenions quelques grandes questions qu'on retrouvera tout le temps. Le fondement de la cité. Parce que c'est comme ça qu'on pourra avancer et trouver quelque chose d'intéressant. Le fondement de la cité. Le fondement de la cité, c'est l'individu. Et non pas la famille. Ça, c'est très net. C'est l'individu. Chaque individu fonde la cité. L'individu qui n'est pas contemplatif. Donc l'individu dans son devenir. C'est l'individu dans son devenir. C'est parce qu'il a un devenir et qu'il doit être éduqué qu'il est fondement de la cité. Parce que la théoria est au-dessus du devenir, au-dessus de l'éducation. Au-dessus de celui qui est contemplatif, il a besoin d'être éduqué. Tandis que l'autre, il a besoin d'être éduqué. Alors, posons. Question, le gouvernement, pour lui c'est très simple, il n'y a qu'un seul gouvernement idéal, c'est le gouvernement du philosophe. Le philosophe doit être roi. Le philosophe doit être roi parce que il est le seul à avoir atteint la vérité, avoir contemplé le bien et l'âme, donc être capable de le communiquer aux autres, de permettre aux autres d'être. Ce philosophe a un pouvoir absolu, puisqu'il peut mentir. bien absolu, il a une espèce de pouvoir absolu, il a une autorité absolue. Parce qu'il a atteint le bien et l'ordre. Alors, il est aidé normalement des gardiens, des législateurs, des gardiens. Il est aidé de l'armée. Il est aidé des citoyens qui ont une certaine fécondité, qui sont des artisans. Les commerçants sont mis en dehors de la cité parce qu'ils n'ont pas de fécondité. Le commerçant comme tel est en dehors de la cité. Tandis que l'artisan et l'agriculteur ont touché à la fécondité. C'est la question de la fécondité qui joue.